Chapitre 5e. Litian, 17 mai 1815, Jardin des plantes médicinales, Paris, fin d'après-midi. Alors que Litian avait craint de devoir subir un voyage long et compliqué, impliquant, pour une vieille femme désargentée comme elle, de nombreux changements de mode de locomotion au gré des circonstances, son périple depuis la Suisse vers Paris s'était révélé étonnamment rapide. À Genève, la chance lui avait souri. Elle avait trouvé des rouliers transportant en France jusqu'à Chartres un chargement de fines étoffes qui accomplissait le trajet par le chemin le plus court sans perdre de temps en livraison intermédiaire. Les hommes avaient accepté de la prendre dans leur chariot contre une rémunération modeste. Il avait été difficile pour Litian de s'extraire de son isolement volontaire, de quitter la retraite que les événements lui avaient imposée. Non qu'elle craignît pour sa vie, celle-ci ne lui importait pas à ce point, mais elle s'était accoutumée à cette solitude et côtoyer le monde de nouveau ne lui disait rien. Pourtant, il le fallait bien. Faire la route à l'arrière de ce chariot avait beau lui paraître terriblement inconfortable, elle ne pouvait se permettre de voyager plus lentement, car le temps était peut-être compté. Elle voyait presque ce désagrément comme une punition pour s'être tenue durant toutes ces années à l'écart des affaires du monde, installée dans une routine commode. En chemin, elle avait disposé de tout le temps nécessaire pour réfléchir à la situation. Ces gens qui étaient venus à sa rencontre avaient entrepris une quête qui les dépassait et ils allaient au-devant de sérieux dangers. Aussi, comment aurait-elle pu demeurer les bras croisés alors qu'elle pouvait encore, en dépit de son âge, apporter sa pierre à l'édifice? Lors de cette soirée d'orage, elle avait hésité à leur en dire davantage. Mais, dans le fond, il n'aurait guère été plus avancé et cela l'eût mise elle-même en danger. La meilleure façon de les aider restait encore de reprendre ses anciennes recherches et d'améliorer son savoir sur ces matières. Rencontrer la fille de Charles avait représenté pour elle un moment particulier, non dénué d'émotion. Étélinde était la digne descendante de son père. Litian avait retrouvé chez elle la passion de la connaissance qui animait Charles et n'avait pas caché son intérêt pour l'étude méthodique de l'art obscur menée par la jeune femme, ainsi que pour les résultats qu'elle prétendait obtenir en reproduisant ses effets par la science. Par ailleurs, Litian était touché par sa volonté farouche de découvrir ce qui était arrivé à son père, elle qui n'avait jamais cessé d'éprouver une certaine culpabilité pour ne pas avoir su prévenir son ami à temps. Quant à son mystérieux compagnon, ce Ludwig Archeresse, c'était lui aussi un singulier personnage, de toute évidence plus complexe que son apparence de simple mercenaire le suggérait. Il possédait vraisemblablement un savoir étendu sur les questions occultes et surtout, un authentique spiriti aestus, un fluide ésotérique. Litian l'avait tout de suite senti. L'hypothèse selon laquelle il pourrait avoir développé ce talent par le simple fait d'avoir vécu, enfant, à proximité d'un gisement de lapis lucidus était fascinante, et la vieille magesse avait hâte de la vérifier. Après deux longues semaines de chaos sur des routes de campagne, Litian avait quitté les rouliers à Sens et avait continué à voyager par grande diligence jusqu'à Paris. Une fois entre les murs de la capitale, elle était montée dans un fiacre en direction du pont d'Austerlitz. Dans cette voiture, les secousses des roues sur les pavés avaient remplacé les chaos des routes et Litian, que ses vibrations indisposaient, s'était efforcé de se retirer dans ses pensées. Paris lui rappelait toujours des souvenirs mitigés. Une année universitaire dans sa prime jeunesse, en tant qu'étudiante étrangère, quelques passages épisodiques pour assister à des réunions de la confrérie, et surtout un voyage d'agrément avec ses deux filles. Voilà plus de 30 ans qu'elle les avait vues pour la dernière fois, et pas un jour ne passait sans qu'elle songeât à elles. Qu'était-elle devenue? Qu'avait-elle fait de leur vie? Qu'avait-elle pensé de leur mère après sa disparition? Et par-dessus tout, les reverrait-elle un jour?
Stupide! Cesse donc de te leurrer, vieille folle, et accepte la réalité telle qu'elle est.
Heureusement, le fiacre s'immobilisa alors, mettant fin à ses pensées démoralisantes. Litian descendit le marchepied et se retrouva face à l'imposant portail de fer du jardin des plantes. Dans la lumière déclinante de la toute fin d'après-midi, les vastes allées bordées de platanes se vidaient peu à peu de leurs promeneurs et les gardiens commençaient à fermer les différents accès au parc. Litian se hâta de passer les grilles et se dirigea vers l'ancien cabinet du roi, devenu cabinet d'histoire naturelle à la Révolution. Cette longue bâtisse rectangulaire abritait les collections de l'ancien jardin royal des plantes médicinales, dont les attributions ne se limitaient plus à accumuler des herbiers ou des minéraux entrant dans la pharmacopée du droguier du roi, mais à recueillir les innombrables spécimens du règne du vivant rapportés par les diverses expéditions françaises aux quatre coins du monde. Lithian franchit la porte latérale. La dernière fois qu'elle était venue, la galerie intérieure occupait toute la hauteur du bâtiment et une profusion d'animaux empaillés ou d'insectes s'y entassaient déjà. Depuis, le rez-de-chaussée avait été voûté afin d'ajouter un étage supérieur permettant de gagner de la place. Mais l'amoncellement n'avait pas diminué pour autant, alimenté par l'arrivée permanente de nouveaux représentants, plus ou moins bien conservés, de l'infinité d'espèces qui peuplaient le monde. La spécialisation des sciences modernes telles que la biologie, la taxonomie, la géologie ou même la toute jeune paléontologie mettrait bientôt à la retraite les savants à l'ancienne. La Magesse traversa la grande salle plongée dans la pénombre sans prêter attention aux spécimens de toutes sortes et de toutes formes reposant dans des bocaux, derrière des vitrines ou dans des caisses encore jamais ouvertes. Elle longea des dizaines de squelettes montés sur des supports en fer servant aux étudiants à comparer les espèces avant de s'arrêter tout au fond devant une encoignure d'étagères dont les moulures dissimulaient habilement une petite porte, si discrète qu'on ne pouvait la remarquer si l'on ne savait où chercher. Usant d'une clé qui n'avait plus servi depuis longtemps, Lithian l'ouvrit et s'enfonça dans un étroit couloir. De l'autre côté, elle déboucha dans une drôle de salle, occupant toute la largeur du bâtiment ainsi que sa hauteur, puisqu'elle avait échappé à la réorganisation de la galerie, demeurant secrète même durant les travaux, grâce au soutien de Buffon en personne. Comme tous les surintendants qui l'avaient précédé, celui-ci était dans la confidence et il tolérait la confrérie en ses murs par respect pour les érudits qui la composaient. Ce qui frappait à première vue ici, au quartier général de l'ordre, était la quantité de livres. Il y en avait partout, entassés en haute pile à même le sol ou rangés dans des étagères débordantes qui montaient à l'assaut des murs, presque jusqu'au plafond. Cet endroit était avant tout une bibliothèque, recelant le savoir accumulé par la confrérie au fil des siècles. Comme la salle devait demeurer invisible de l'extérieur, nulle fenêtre ne perçait les murs et la seule lumière naturelle dispensée en ces lieux provenait d'étroites verrières dans le toit. En bas, de nombreux bureaux et cabinets de travail s'alignaient, certains montés sur des estrades, tous envahis de livres et de monceaux de documents. Rien n'avait changé ici depuis la dernière visite de Lithian une quinzaine d'années auparavant, si ce n'était davantage de poussière, de toile d'araignée et une odeur de renfermé des plus déplaisantes. Une seule personne était présente. Un homme dont la silhouette se détachait dans le halo orangé de sa lampe, à l'autre extrémité de la salle, assis à sa table de travail. Il ne semblait pas avoir entendu Lithian entrer. Celle-ci se dirigea vers lui et le reconnut avant d'arriver à son niveau. Jorge Herstal. Jorge était déjà très vieux lorsque Lithian fréquentait encore la confrérie. Maintenant, il paraissait hors d'âge. Penché sur son bureau, il avait le dos voûté, les bras tordus, les épaules étroites, le menton pourvu d'un long bouc proéminent, blanc et touffu. Lithian songea en le découvrant à ces striges qu'elle avait pu observer sur les hauteurs de certaines églises. Le vieillard, absorbé par la lecture d'un livre épais, ne l'avait pas encore remarqué. Lithian se racla la gorge. Jorge releva la tête et, se tournant vers elle, posa des besicles sur l'arête crochue de son nez aquilin.
« Qu'est-ce à dire ? » fit-il d'une voix tremblotante. « Qui êtes-vous ?